Michel Coll, est-ce qu'on peut dire que le christianisme que vous avez découvert ou redécouvert, c'est un christianisme incarné et que quand le christianisme s'incarne, il devient lieu de communion ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que l'aventure monastique pour moi, telle que je l'ai reçue du témoignage de ces hommes et de ces femmes que j'ai rencontrés, et ce sont des hommes et des femmes justement qui nous rappellent que la grande aventure du christianisme, c'est une aventure d'incarnation, qui nous rappelle que si le Fils de Dieu a pris notre condition humaine, c'est pas pour rien. Ça a été gratuit, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas pour rien. Et c'est pour nous rappeler que nous sommes pleinement des hommes et des femmes investis d'une parcelle sans doute d'espérance, de lumière divine. Enfin, nous avons en nous quelque chose qui est de Dieu, mais qui s'exprime dans notre corps, dans notre façon de parler, dans notre façon de s'exprimer, dans notre façon d'être. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti dans des communautés carmélitaines, dominicaines, bénédictines ou trappistines que j'ai visitées, c'était ça. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'avoir affaire à des hommes et des femmes qui essayaient d'être plus hommes et plus femmes dans leur quête de Dieu. C'est-à-dire que leur quête de Dieu les amenait à être davantage humains. Enfin, pour moi, il y a là un message essentiel du christianisme. Qu'as-tu fait de ton frère? Que fais-tu de toi-même, de ta vie? Que fais-tu de ton corps? Et que fais-tu de ton intériorité? Est-ce que cette intériorité te permet d'être davantage proche de tes frères? Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que justement, ils s'éloignent du bruit du monde, ces moines et ces moniales, pour être encore plus proches de nous. Et ça, moi, je l'ai compris en faisant ce chemin-là, en allant les visiter, les rencontrer. Je le comprenais d'une manière intellectuelle. Je pouvais le comprendre de manière intellectuelle, mais je ne l'avais pas senti. Je ne l'avais pas touché, palpé. J'avais pas, vous savez, j'aime beaucoup le tableau du Caravage qui montre saint Thomas en train de mettre ses doigts dans les plaies du Christ. C'est un tableau qui me touche beaucoup parce que je pense qu'en chacun de nous, il y a un saint Thomas. On est tous incrédules d'une certaine manière. On a besoin de toucher. Eh ben moi, j'ai eu envie d'aller près de ces hommes et de ces femmes parce que bon, j'étais fasciné. Je ne suis plus fasciné aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des amis de la foi. Ce sont des amis des hommes. Et ce sont des gens qui m'apprennent à suivre au mieux le Christ. Dans cet amour de l'humanité qu'il a témoigné. Et moi, ça a été une grâce pour moi. C'est une grâce d'avoir pu découvrir cela, parce que ça a beaucoup changé ma vie. Vous savez qu'aujourd'hui, après avoir fait cet itinéraire spirituel aussi, je ne peux plus passer une journée sans 20 minutes de silence. Mais de silence, vraiment. Et c'est les moines qui m'ont appris cela. Et pourtant, je sais qu'au début où j'étais dans les monastères, j'avais peur du silence. Il me faisait peur, ce silence. Je n'avais pas l'habitude tous les matins, quand je me levais, je mettais la radio, j'avais besoin du bruit du monde. Parce que je pensais être plus informé, je pensais être plus en connexion avec le monde, parce que j'entendais voilà les infos qui me mettaient. Je suis pas contre le fait qu'on écoute les infos, mais quand même commencer sa journée en faisant le silence et la paix en soi après une nuit de sommeil et se lever comme au premier matin du monde et relire un psaume, relire les textes du jour même, c'est extraordinaire. Ça nous apaise. C'est un moment personnel de grand bonheur, de grande paix. Et je dirais comme Edith Stein, ça vous prépare pour affronter la journée. Parce que dans la journée, évidemment, on est agressé par X choses, on a des déconvenues, on a aussi des moments d'heureuse surprise. Mais c'est vrai qu'il faut la vivre, la journée. C'est pas rien, une journée. Et je trouve que c'est ce moment de silence-là, ça vous donne de la force. Le silence donne de la force. Et bien ça aussi, ça je le dois aux moines et aux moniales qui m'ont montré ce chemin-là, ce chemin de que le silence est un chemin aussi qui mène à l'autre.
Ce que vous avez vécu, c'est un passage. Est-ce qu'on peut dire que le passage que vous avez découvert, que vous êtes en train de vivre, c'est un passage qui passe par l'incarnation et dans lequel tous ces hommes, et vous aussi, vous vivez de la résurrection, c'est-à-dire en se mettant debout?
En vous écoutant, j'ai le souvenir, alors là, un souvenir pascal, je dirais, c'est quand je suis allé à la communauté de Grandchamp, les sœurs de Grandchamp, qui sont une communauté de religieuses contemplatives protestantes, réformées, protestantes parce que dans la communauté, vous avez toutes les traditions du protestantisme, en plus une communauté internationale, puisqu'il y a une asiatique, tous les continents sont représentés dans cette communauté, c'est une communauté très engagée dans l'œcuménisme, un peu voisine de la spiritualité de Thésée d'ailleurs, et qui vit dans un cadre magnifique, une sorte de petit hameau près du lac de Neuchâtel, qui rappelle un petit peu le lac de Tibériade. Et on est saisi par un silence dans cette communauté, parce qu'ils vivent dans plusieurs petites maisons, comme un hameau, comme un petit village. Et vous êtes saisi quand vous arrivez là par un silence, mais un silence très incarné. Et j'ai mieux compris ce qu'elles vivaient quand j'ai lu des textes de leur fondatrice, Geneviève Micheli, qui avait dit « Notre vocation, c'est de vivre enveloppé du silence des femmes de l'Évangile. » Ah, c'est quelque chose moi qui m'a bouleversé. Du coup, j'ai relu des extraits d'Évangile où il y a les femmes, il y a Marie-Madeleine, il y a Marie, il y a les saintes femmes. Et c'est vrai qu'elles sont tout le temps entourées de silence. Elles ne parlent pas beaucoup. elles gardent beaucoup de choses dans leur cœur, mais elles témoignent d'un silence, d'une grande espérance, quoi. Et c'est vrai que je n'ai jamais autant ressenti le message pascal qu'à la lumière du silence des sœurs de Grandchamp. En plus des sœurs qui sont très engagées pour le combat pour la justice, l'action non violente, enfin je veux dire, elles ne sont pas désincarnées. Là, pour le moins qu'on puisse dire, c'est vraiment de la contemplation dans l'action. Donc on est là dans une dynamique, la dynamique de Pâques. Ça va peut-être surprendre des auditeurs de parler du silence, de dynamique de Pâques et de mettre le silence en lien avec l'action. Oui, sauf que je pense que le génie du christianisme, j'emprunte cette expression à Chateaubriand, mais elle me vient comme ça, c'est quand même l'action et la contemplation ensemble. Et je crois que ce que nous rappellent aussi les contemplatifs, c'est cela. C'est-à-dire d'être à la fois des témoins du silence intérieur, mais d'un silence qui n'est pas déconnecté des paroles qu'on reçoit à la fois de Dieu et des hommes, et en même temps d'un silence qui nous motive à être solidaire de notre humanité. Et ça, j'ai ressenti très fort. Et je vous dis, en plus, enveloppé dans ce silence des femmes de l'Évangile. En même temps, ben oui, les premiers témoins de l'Évangile, ce sont les femmes, ce sont des femmes. C'est Marie-Madeleine au tombeau et qui crie « Il est ressuscité ». Et elle brise le silence par ce cri-là, mais qui nous renvoie au grand silence du mystère de la résurrection en même temps, parce que c'est un grand silence. Voilà ce que me suggère votre question, et en tout cas, moi, elle m'a fait faire des grands pas dans ce mystère de la résurrection. Et je dis cela parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de chrétiens doutent de la résurrection. Ils ont du mal à comprendre, à piger ce que ça veut dire. Un dernier sondage disait récemment qu'un certain nombre de catholiques ont peine à croire en cela. Ne nous échinons pas rationnellement à essayer de décrypter le mystère de la résurrection, on n'y arrivera jamais. Par contre, et ça, je le tiens d'un autre grand maître spirituel, Benoît Standart, que j'ai rencontré, qui est un moine bénédictin de l'abbaye Saint-André de Bruges. Il ne faut pas évacuer le mystère. Il ne faut pas essayer de le comprendre. Un mystère, par la définition, ça ne se comprend pas, ça ne s'analyse pas. Mais ne l'évacuons pas. Vivons-le. Vivons-le, non pas pour le comprendre, mais pour vivre avec. Et ce mystère de la résurrection nous rappelle que nous sommes aussi nous. Il y a un grand mystère, c'est le mystère de l'homme. Et c'est cela. Et notre résurrection à nous, ben c'est ça. C'est de vivre dans l'espérance de Pâques, qui est toujours que l'amour, je ne dis pas la mort, l'amour est plus fort que la vie.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Moi, je vis actuellement une vie professionnelle. J'ai la chance de pouvoir être libre et indépendant et qui me permet cette exploration, voyez-vous, de la vie monastique, du monde intellectuel. Là, je prépare un ouvrage sur le monde des patrons chrétiens et je vais là aussi de surprise en surprise. Je découvre des hommes et des femmes qui ont d'énormes responsabilités dans des petites, moyennes entreprises ou dans des grandes sociétés transnationales. Qui sont certes habités par, je dirais, la doctrine sociale de l'Église, par exemple, mais qui sont surtout, comment dire ça, taraudés par cette idée, comment dans mon management, comment dans ma gestion des hommes, dans ma responsabilité sociale, en plus dans cette période de crise, comment suis-je un témoin du Christ, mais encore plus, comment moi je me convertis à l'Évangile dans cette conjoncture pénible, difficile, dans un contexte où les patrons sont très mal vus, où il y a un soupçon qui pèse sur eux, et bien comment moi j'arrive à articuler ma vie spirituelle et ma vie professionnelle sans séparer. On retrouve encore toujours cette tendance que nous pouvons avoir à séparer les choses, le corps, l'esprit, l'intelligence, la prière. Comment je ne sépare pas dans ma vie de manager ma responsabilité sociale et ma responsabilité éthique ou spirituelle. Et je dois vous dire que je rencontre des personnages, moi, qui me donnent de l'espérance. Donc, je me dis qu'avec des, même s'ils sont une minorité, avec ces patrons chrétiens-là, je veux dire, le monde n'est pas foutu. Parce que vraiment, il y a des hommes et des femmes, on ne dit pas assez, qui aujourd'hui essaient de vivre en conformité, en se convertissant chaque jour, un peu comme les moines aussi, dans leur vie monastique, essayer de se convertir à cette parole de feu de l'Évangile. Il y a aujourd'hui des managers qui essayent aussi de vivre ça, de se convertir tous les jours par une ascèse de la prière, mais aussi par ce souci d'être non pas le patron qui, je dirais, a droit de vie et de mort sur des salariés, mais qui est au service. Qui est au service de l'épanouissement de chacun dans l'entreprise. Alors ça a l'air d'être des mots, et je suis en train d'écrire ce livre, et je veux dire qu'il y a des choses très concrètes qui permettent justement de se dire que la crise va peut-être permettre à ces témoins-là de se faire entendre davantage. Et je trouve que là, il y a un enjeu aussi pour le christianisme, que dans ce monde des affaires, on puisse témoigner d'une espérance aussi imprégnée et enveloppée du silence des femmes de l'Évangile.
Merci.
Merci.